Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et place à l'invité politique. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 au terme d'une semaine politique assez surprenante, mais est-on au bout de nos surprises ? On aura l'occasion d'en parler. D'abord parce que c'est une question d'actualité. On l'a entendu dans le journal, La République En Marche, en tout cas Renaissance ainsi que la NUP, veulent une loi pour inscrire le respect à l'IVG dans la Constitution, même si le constitutionnaliste Didier Mauss nous disait à l'instant que juridiquement ça n'était pas nécessaire puisque la Constitution prévoit déjà ce respect à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que pour le symbole, c'est nécessaire ?
Je crois que politiquement c'est nécessaire, même si juridiquement ça ne l'est point. Politiquement parce que l'ensemble des Françaises et des Français sont un peu choqués par ce qu'ils ont vu de la Cour suprême des États-Unis, même si ça n'a aucun rapport avec la France, ça ne fonctionne pas de la même façon, etc., et que c'est une liberté qui est donnée, si je puis dire, aux États pour pouvoir prendre une législation contre le droit de l'avortement. Mais on voit bien qu'il y a des tentations de revenir sur tout ce qui est des acquis pour les femmes. Donc, politiquement, évidemment, faire voter une loi constitutionnelle peut être une bonne chose.
Même si elle est symbolique.
Oui, c'est symbolique. Parce que sur le plan juridique, mais c'est peut-être pas symbolique sur le plan politique tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez
parce
dire
que
par
ça,
là
bien, parce que c'est une de mes idées, c'est que la gauche devrait construire des propositions gouvernementales. Valérie Rabault le fait, le propose là sur la question du pouvoir d'achat. Mais elle devrait avoir un nouveau plan, un plan dans tous les domaines. Et on voit que Ensemble peut soutenir ou participer, ouais, même s'ils ont formellement parlé les premiers, mais participer à des propositions. Donc il n'est pas impossible que la gauche puisse aujourd'hui avoir un gouvernement d'urgence, proposer un gouvernement d'urgence et dire au président de la République, eh bien écoutez, voilà les propositions que nous faisons, à vous de vous déterminer.
Bon, en tout cas, rebombinons jusqu'à lundi, la petite bande et Jean-Luc Mélenchon qui voulait un groupe unique à l'Assemblée, là à la fois le PS et les autres lui ont dit non, est-ce que ça change quelque chose ?
Non, bon, ça ne change rien, vous savez, la vocation du Parti Socialiste, ce n'est pas d'être une franchise de Jean-Luc Mélenchon. Le Parti Socialiste est un grand parti qui doit rompre avec cette espèce de syndrome du minoritaire qui n'ose pas s'affirmer dans la vie politique parce qu'il y a eu une déconvenue lors de les élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est une formation politique qui domine au Sénat, domine dans les collectivités locales, est présente souvent dans les débats. Elle doit reprendre sa place. Ça, c'est le premier point. Le second, le Parti Socialiste doit s'interroger sur le fait qu'il ne peut pas être dans le déni. Le Parti Socialiste n'a pas gagné l'élection législative. Il n'a pas gagné l'élection législative parce que le programme, l'orientation, peut-être même le leader proposé comme Premier ministre, était trop radical par rapport à une société française qui, je l'avais dit ici il y a cela quelques semaines, va à droite.
Vous voulez dire que c'est la NUP qui ne doit pas être dans le déni et pas le Parti Socialiste ?
Mais si, parce que le Parti Socialiste dit on a eu un succès, on a gagné. Non, on a sauvé les meubles. Bon, c'est très bien, tant mieux.
Parce qu'elle fait partie de la NUP. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à savoir si elle fait partie intégrante de la NUP. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un grand succès à ces élections législatives, contrairement aux dernières en 2017. Ou alors, est-ce qu'elle se défend d'être dans la NUP, ou elle y a une césure qui est marquée en disant, ben voilà, on ne va pas aller derrière Jean-Luc Mélenchon systématiquement.
Alors, si vous me le permettez, je veux proposer une troisième solution. Ouais. C'est un peu le syndrome des anciens premiers secrétaires qui font des synthèses.
Oui.
Mais moi, je pense qu'il faut construire une nouvelle union. Une union gagnante.
Encore ?
Oui.
Enfin, mais vous vous rendez compte ?
On a perdu, là. On n'a pas gagné. Ouais. Je sais bien que l'idée, c'est magnifique, mais on n'a pas gagné. Bon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre.
Non.
Bon. La gauche a progressé, mais elle n'a pas gagné. L'objectif, c'était bien de gagner, sinon on a trempé les Français.
Oui, mais il y a une majorité relative d'ensemble.
Et donc, on n'a pas gagné.
Non, mais très bien. Bon. Personne n'a gagné. C'est l'école des fans à l'inverse. Personne n'a gagné.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que là, nous avons une crise.
Oui.
Il y a une légitimité présidentielle qui est incontestable. Mmh. Bon. Et il y a une légitimité parlementaire. D'habitude, il y a une cohabitation. Là, il ne peut pas y avoir de cohabitation.
Bien sûr.
Puisque, donc la question, je serais tenté de dire, c'est comment on construit une cohabitation.
Alors, comment est-ce qu'on construit une cohabitation qui ne sera pas une cohabitation? Ça sera plus une coalition.
Mais ça peut être aussi une cohabitation. Ça dépend du président de la République. Il peut demander à un Premier ministre minoritaire, puisqu'il n'y a pas de majorité, de venir à l'Assemblée.
Vous pensez
et
à
soutenir.
Qui
J'en sais rien, mais si vous ne faites pas de proposition, si nous rentrons dans le coup par coup, je vois bien, au fin de compte, coup par coup,
ouais.
c'est un élément de décomposition, mais c'est un élément qui permet aux groupes parlementaires de continuer à être dans l'opposition sans se mouiller quant aux propositions. Mais ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Donc, ça veut dire que les uns et les autres ont en tête le fait qu'il va y avoir une dissolution.
Ah, d'où
je reboucle mon analyse.
Mais
j'en sais rien. D'où je reboucle mon analyse. Si on est dans cet état d'esprit, si en fin de compte, c'est une crise qui est insurmontable institutionnellement et que l'on va à une dissolution, il faut peut-être s'y préparer. Donc, cela veut dire qu'il faut construire une union gagnante. Pour construire une union gagnante, ça ne peut pas être la reproduction de l'ANUPS. Donc, voilà pourquoi je propose que les socialistes prennent l'initiative de travailler à un gouvernement d'urgence.
Oui, et de travailler également à une dissolution.
De travailler à une dissolution, ce n'est pas eux qui le décident, donc ce n'est pas eux de travailler. C'est d'avoir des propositions qui permettent aux Français de se sortir de la difficulté dans laquelle ils sont et de permettre aussi de surmonter la crise que nous traversons.
Vous lui donnez combien de temps à cette Assemblée et à cette Première ministre qui est Elisabeth Borne avant dissolution?
Écoutez, je ne sais pas, parce que la difficulté, elle est où? Elle est dans le fait que personne n'est majoritaire absolu.
Mmh.
Donc dans une situation où personne n'est majoritaire absolu, vous n'avez pas une coalition qui peut permettre de renverser. Prenons un exemple.
Mais ça, c'est de la théorie.
C'est très pratique. C'est très pratique, regardez. On dit on va déposer une motion de censure.
Okay. Ah,
attention, franchement, on dit à Mme Borne, vous devez venir là, poser la confiance. Mais on sait déjà que ni le Rassemblement National, ni LR, ni encore moins Ensemble, va la voter. Donc, ça veut dire qu'on sait déjà que l'on va être battu sur une motion de censure. Et ça sera la même chose quand le Rassemblement National... Donc, on est dans une situation où on ne peut pas gouverner et on ne peut pas renverser. Donc, il faut bien trouver une solution. Et cette solution, c'est ce que je dis, c'est doit soit construire une cohabitation, soit être dans une autre solution, c'est-à-dire la dissolution.
Concernant le Rassemblement National, certains disent que Marine Le Pen et ses 88 députés vont jouer un rôle crucial, notamment d'abstention pour suivre la majorité. Est-ce que vous y croyez?
Je pense que Marine Le Pen a en tête la prochaine élection présidentielle. Et donc, elle va essayer de démontrer que... elle est à la fois
ça sera
dans l'opposition.
Quatrième, hein.
Oui, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon est aussi dans la même logique.
Bon.
Donc, elle va être
donc,
dans
même
l'opposition.
Même si elle a dit que c'était sa dernière, etc., vous n'y croyez pas?
Non, je ne crois pas. Bon, je ne pense pas. Je pense qu'il est au-dessus de l'ensemble de la gauche et il pense que cette union peut lui permettre de gagner là où il a perdu. Mais Marine Le Pen sera dans l'opposition sur ces thèmes et ces propositions qui sont assez classiques, qui sont une certaine xénophobie que nous connaissons bien. Et puis, par ailleurs, à des moments donnés, si c'est son intérêt, elle peut s'abstenir, évidemment.
Vous avez dit tout à l'heure que le Parti Socialiste est un grand parti. Je pense que certains de nos auditeurs ont dû tomber de leur chaise, puisqu'on a vu Solferino se fermer. Vous avez été un des derniers premiers secrétaires du Parti Socialiste. Et en même temps, il y a un ancrage territorial du PS. Alors aujourd'hui, vous qui observez ça de loin ou peut-être même de plus près qu'on ne le croit, vous comptez sur qui? Sur Boris Vallaud? Sur Jérôme Guedj? Sur des gens comme ça? Est-ce qu'il y a des ténors, des barons vraiment totalement estampillés PS qui pourront mener cette fronde dont vous parlez?
Bien, pour cela, il faut travailler une refondation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas sur le thème de la refondation, nous sommes sur le thème de la fusion dans la NUP. Donc, il faut trancher ce débat, qui est un débat stratégique. L'avenir du Parti Socialiste, c'est est-ce que c'est être une franchise de Jean-Luc Mélenchon ou l'avenir du Parti Socialiste est d'être le pilier d'une nouvelle union? Voilà, c'est un débat.
Mais qui décide de ça?
C'est un congrès et il aura lieu à l'automne.
Bon.
Et à ce moment-là, On verra ce que a décidé le Parti Socialiste, ses adhérents, ses militants, ce qu'ils ont décidé pour l'orientation stratégique. C'est fondamental. Parce que trancher cette question, qui est ouverte, qui est camouflée aujourd'hui parce qu'on est dans l'urgence parlementaire, etc. Mais c'est une question essentielle. Et je dirais même, si vous me le permettez, que c'est une question qui touche aussi la suite de la crise que nous traversons. Parce que si nous restons dans la NUP telle qu'elle est aujourd'hui, à l'évidence, nous allons à des élections parce qu'il y aura dissolution et nous serons dans cette, dans cette ancienne alliance. Si nous proposons une nouvelle forme, la manière dont le débat va pouvoir continuer au Parlement et puis la manière dont le Parti socialiste et les forces de gauche s'organiseront pour une prochaine élection législative sera totalement différente. Dans un cas, c'est perdant. Dans un autre, ça peut être gagnant, car on aurait pu gagner.
En attendant, des textes vont être présentés. J'entends bien que vous souhaitez une dissolution, mais en attendant, le travail parlementaire va se faire, avec en attendant toujours Elisabeth Borne, Premier ministre. Des textes vont peut-être arriver, comme peut-être le texte sur les retraites. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une assemblée à la René Coty, à la 1946, où chacun va se renvoyer la balle, où ça va être inaudible, où il y aura une navette parlementaire incessante, où on va brandir, parce qu'on a le droit, une fois par session, le 49-3. Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Christophe Commandelis?
Il va se passer que l'Assemblée va être le théâtre d'une conflictualité partisane. C'est d'ailleurs ce que souhaite le président de la République.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'à partir de là, il va être dans une situation visant à démontrer que le Parlement est bloqué et que lui, c'est un homme d'ordre. Et on y fonce tête blessée dans cette orientation, puisque nous suivons Jean-Luc Mélenchon dans une orientation d'opposition frontale. Nous ne sommes pas là en disant « voilà notre programme de gouvernement ». Et nous tournons vers ensemble en disant « est-ce que vous êtes d'accord ?» Et nous tournons vers les écologistes en disant « est-ce que ça vous va ?» Ou le Parti communiste. Puis après, en essayant de faire, là pour le coup, une coalition avec Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas là-dedans. On est dans, on voit bien la France insoumise qui avance, qui s'affronte, qui fait des propositions, qui dit qu'elle déposera une motion de censure. Et nous, on suit quoi. Voilà.
Un dernier mot, Jean-Christophe Candalès, vous avez regardé le président mercredi soir?
Oui.
Et alors?
Je crois qu'il a défini sa stratégie. Sa stratégie, c'est très simple. Il y a une crise entre le législatif et l'exécutif qui doit gagner l'un des deux.
C'est intéressant parce que à aucun moment, contrairement à beaucoup d'observateurs, vous ne l'avez décrit comme perdu, ne sachant pas quoi faire. Vous vous dites qu'il est déterminé, il a un plan d'attaque.
Mais il a un plan d'attaque, c'est faire porter la responsabilité de l'absence de possibilité de surmonter la crise au Parlement, parce que c'est le régime des partis. Il veut rétablir l'exécutif, puisque l'exécutif a été battu dans cette élection.
Merci beaucoup Jean-Christophe Combadélis, ancien secrétaire du PS, d'avoir été avec nous sur Europe 1 dans une poignée de secondes. Ça fait débat, et c'est même maintenant. Bonsoir Edouard Dorian-Sipel. Porte-parole de Territoire de Progrès, bonsoir à Othmane Nasrou.
Bonsoir.
Vice-président LR de la région Île-de-France. Même punition, j'allais dire, mais c'est l'actualité. Et effectivement, ça n'a pas loupé. 24 heures après la décision de la Cour suprême américaine sur cette révocation du droit à l'avortement, cette proposition de la majorité d'inscrire le respect à l'IVG dans la Constitution, Othmane Nasrou, tout à l'heure dans le journal de 18h, Didier Mauss, le constitutionnaliste, disait que juridiquement, ça n'était pas nécessaire puisque tout était prévu juridiquement tel quel dans la Constitution. Est-ce que politiquement, c'est nécessaire?
Je pense que là, c'est une volonté de faire une opération qui est davantage une opération de communication. Parce que si on doit modifier notre Constitution à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave aux États-Unis, eh bien, on n'en finirait pas là. En l'occurrence, moi, je veux le dire très clairement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est choquant, c'est inacceptable. Mais je ne crois pas que la question se pose dans les mêmes termes dans notre pays. Je ne suis pas opposé à l'idée qu'on puisse l'inscrire, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette annonce de la part d'une majorité qui avait refusé la même proposition en 2018 Et donc, on voit qu'il y a une volonté plutôt de traiter certains sujets plutôt que d'autres, parce qu'il y a des sujets peut-être qui arrangent moins ceux qui sont responsabilités depuis 5 années, je pense à la sécurité, je pense au pouvoir d'achat. Donc on est tous d'accord sur l'importance, bien sûr, de sacraliser ce droit à l'avortement. Je ne crois pas qu'il soit menacé, évidemment pas dans les mêmes termes qu'aux États-Unis, Mais donc, je ne comprends pas très bien cette initiative et ce volte-face 4 ans après la précédente initiative qui avait été rejetée par le groupe macroniste à l'Assemblée.
Vous faites du marketing, Édouard Dorian-Sipel ?
Non, d'abord, cette décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique est dramatique. C'est une immense régression qui privera des millions de femmes aux États-Unis d'Amérique d'un droit fondamental, d'un acquis, de ce que l'on pensait pouvoir être un acquis définitif dans une démocratie comme les États-Unis d'Amérique. Priver donc des millions de femmes de ce droit fondamental, et c'est extrêmement préoccupant. Surtout quand cette Cour suprême, en même temps, libéralise le port d'armes dans l'espace public aux États-Unis. On voit donc que ce sont des offensives ultra-réactionnaires qui sont préoccupantes, au sens qu'on observe, on constate que certains acquis que l'on pensait irréversibles de nos démocraties peuvent être supprimés du jour au lendemain par une Cour suprême comme aux États-Unis. C'est pourquoi je pense que c'est une excellente opportunité pour que en France, on puisse
pour
apporter plus que pour le symbole, pour
parce
apporter
que
une garantie fondamentale encore plus forte en le revendiquant. Et je suis heureux de la proposition de loi qui a été faite et déposée au ce jour par Aurore Berger, qui préside le groupe de la majorité présidentielle. Donc je pense que c'est important. Voilà, il y a une opportunité. Et je suis heureux qu'elle a été faite et été déposée et que aussi des groupes d'opposition suivront pour
Othman
pouvoir le valider.
Je l'ai dit, on est tous d'accord sur le constat de la gravité de ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr que c'est un droit fondamental. La question, c'est pourquoi, maintenant, on a cette proposition-là, alors qu'en 2018, vous l'aviez rejetée quand c'était une partie de l'opposition qui l'avait proposée. Ce volte-face est étonnant. Ça, c'est le premier point. Puis, vous l'avez dit, la Cour suprême des États-Unis a aussi consacré le port d'armes. Je n'ai pas vu que, du coup, on se sentait obligé en France de l'inscrire également dans la Constitution, notre refus du port d'armes. Donc, soyons cohérents, on ne va pas être ici en France, la chambre d'enregistrement en riposte, en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet du droit à l'avortement dans notre pays, là aussi, prenez vos responsabilités. C'est un problème d'accès à l'IVG, parce qu'on a des centres aujourd'hui qui souffrent d'un manque de moyens. C'est de plus en plus difficile d'accès. Ce n'est pas le principe qui est attaqué aujourd'hui, ce sont les modalités pratiques. Et là-dessus, le gouvernement n'apporte aucune vraie réponse. Et donc, je vois là aussi qu'il y a, à mon avis, effectivement, une opération qui est davantage politicienne, même si sur le fond, on est tous d'accord qu'on veut défendre ce droit à l'avortement. Je ne comprends simplement pas pourquoi on veut le faire à la suite de ce qui se passe aux États-Unis.
Les seules discussions qu'il y a en ce moment, d'ailleurs entre parlementaires, c'est sur les semaines, le nombre de semaines. Voilà.
Je suis désolé, entendre ce discours, on pourrait penser que c'est un acte banal, ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique avec la suppression de ce droit fondamental.
Mais quel rapport avec la France ?
À l'interruption volontaire de grossesse. Le rapport, il est simple, c'est que nous voulons garantir ce droit de manière constitutionnelle la plus forte possible. Je pense que sur certains sujets comme ça, qui sont des acquis et contre lesquels on porte atteinte, même si ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas dans un régime autoritaire.
Mais en 2018, vous expliquiez qu'il n'y avait pas besoin de garantie juridique suffisante.
On n'est pas
Mme Brown-Pivet qui l'expliquait à l'Assemblée.
On est à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Moi, je suis.
Vous avez évolué sur cette question.
Je suis fier. Moi, j'ai toujours été pour. Mais moi, je crois que si notre pays peut réaffirmer qu'un acquis fondamental des citoyens, en l'occurrence des citoyennes, si ailleurs dans une démocratie on peut y porter atteinte, ici en France, on porte l'idée de le garantir encore plus fondamentalement dans la Constitution. Et je pense que ce type de raisonnement et d'attitude sera d'autant plus nécessaire dans l'avenir face à des atteintes qui pourront être portées contre des droits fondamentaux de la démocratie. Moi, je prends, je ne sais pas pour vous, vous êtes de droite, républicaine. Mais je pense que vous pouvez partager avec moi quelque chose qui est un sentiment d'inquiétude majeur contre les régimes démocratiques. Moi, je ne sais pas si dans 10, 20, 30, 40 ans, dans l'ensemble de la planète, le régime démocratique sera encore aussi solide qu'il est aujourd'hui. Quand je vois la géopolitique mondiale, quand je vois la guerre de nouveau en Europe, quand je vois ce que peut et est capable de faire M. Poutine, quand je vois le régime autoritaire, quand je vois la Chine, quand je vois les enjeux, moi je crois qu'on a besoin d'avoir des démocraties fortes. Et je vais vous dire, la nécessité de réaffirmer les principes et les acquis fondamentaux de notre démocratie, d'en faire vivant,
vous
partagé,
venez de faire
pas
un très beau discours de politique générale.
De société, de consommation démocratique.
C'est passionnant.
Moi, je pense que c'est important.
J'entends
peut-être qu'Eduardo est candidat à Matignon.
Ben je vois, c'est un très beau discours de politique générale avec beaucoup de, très beaux concepts sur la défense de la démocratie. Aujourd'hui, si la démocratie est menacée, si la démocratie est menacée dans notre pays, c'est davantage à cause de cette instabilité politique que nous avons, qui est la résultante de cette manière aussi de faire de la politique. En 2018, vous expliquiez devant tout le monde qu'il n'y avait pas besoin du tout d'inscrire ce droit dans la Constitution.
Non, mais peut-être.
Contre l'opposition,
mais peut-être,
que vous sollicitez aujourd'hui pour vous aider.
C'est une occasion ratée sans doute.
Cette politique de gribouille.
Voilà, c'est dit.
Non, mais bon, moi, je ne vais pas faire de langue de bois. C'est peut-être une occasion ratée.
Oui, mais
moi-même, je n'étais pas encore dans la majorité présidentielle, mais j'avais trouvé une occasion ratée. On ne va pas la commenter. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'initiative. Et que si on peut se rassembler et à un
mais
moment
il faut
sérieux,
que ce soit.
Mais est-ce que vous
mais
imaginez
c'est un sujet trop grave pour que ce soit simplement
jours,
une question d'occasion, si vous voulez. Encore une fois, j'aurais très
est-ce
bien compris ce débat si c'était sans lien avec les États-Unis.
Non, mais juste un mot. Franchement,
je considère que
mais vous avez raison tous les deux. Vous avez raison tous les deux.
Est-ce qu'on imagine, il y a encore quelques jours, que ce droit fondamental des femmes allait être supprimé aux États-Unis d'Amérique, dans la plus grande démocratie.
Ça fait plusieurs mois que cette décision est attendue de la part de la Cour suprême.
D'abord,
tout le monde le savait.
D'abord avec la nomination des juges par Donald Trump, ça a été un premier signe. Et puis, il y a eu la fuite du rapport il y a quelques semaines où on savait de toute façon que cette décision n'avait pas été inscrite.
C'est là où je suis en désaccord profond avec vous. C'est que ce débat-là, il dépasse les frontières de la France. Vous avez un raisonnement franco-français.
Mais là, on parle de la Constitution française.
Vous parlez par rapport à des petits paramètres.
Mais j'ai un raisonnement franco-français parce que c'est
française.
La Constitution franco-française.
Il y a un message aussi adressé à toutes les femmes dans le monde. Là où certains vacillent sur ce droit fondamental des femmes, en France, on le revendique. Mais c'est aussi un message pour tous les pays où des femmes et des hommes aussi militent pour que ce droit-là soit un nouvel acquis.
Si, je viens, ce droit est un acquis,
je suis originaire du
est-ce
Brésil.
Est-ce qu'on peut vous interrompre
ce
deux
droit-là
petites
au
secondes.
Brésil est toujours interdit.
Eh bien, si c'est si important pour vous, pourquoi est-ce que les moyens ne suivent pas les échographes, par exemple, dans les centres IVG? Vous savez que les collectivités se retrouvent à les financer à la place de l'État. Nous le faisons en Île-de-France. Nous avons multiplié par 4 notre soutien aux centres IVG parce que l'État se désengage. Donc c'est beau les grands principes. On est d'accord. Encore une fois, le débat, ce n'est pas de savoir, entre vous et moi en tout cas, si on est contre le droit à l'avortement. On est tous d'accord que c'est un droit fondamental. Mais il ne suffit pas. Mais il ne suffit pas de belles déclarations de principe ou il ne suffit pas simplement de l'inscrire dans la Constitution. Il faut que les moyens sur le terrain suivent. Non, et là-dessus, il y a une grande hypocrisie de la part de ce gouvernement
et
de la part de cette majorité.
Préjugés, vous dites que le gouvernement n'a rien fait en la matière. Je pense pas que ce soit la réalité.
Ne suivent pas vos belles déclarations.
Avec la région
non, là où
je suis pas sûr que ce soit du même
ce
niveau.
Ce que dit Eduardo Riancipel est intéressant, c'est-à-dire qu'il a, enfin pardon, je parle sous votre contrôle, c'est que il y a cette possibilité d'ébranler l'opinion sociétale de toute une planète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un signal qui est donné, qu'on en pense du bien, qu'on en pense du mal. C'est un signal qui est donné aux États-Unis. Et effectivement, on écoute, on regarde. Quand effectivement Eduardo Riancipel dit « Regardez ce qui se passe aux frontières de l'Europe avec la guerre en Ukraine », vous avez par exemple laissé tomber il y a moins d'une demi-heure le président russe qui propose aujourd'hui à son camarade bélarusse Loukachenko de l'aider à moderniser les avions de guerre pour les rendre capables de transporter des armes nucléaires. Est-ce que ces mauvais signaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est la concrétisation? C'est, par exemple, sur le thème de l'IVG, Othmane Nasrou, est-ce que c'est, oui, même si c'est d'une certaine manière, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le journal de 18h avec Didier Mauss, le constitutionnaliste, superfétatoire, parce que ça ne sert pas à grand-chose juridiquement, est-ce que, bah, finalement, le fait de stabilo-bosser, de surligner plutôt un texte, bah, ça le rend, du coup, plus saillant et plus important?
Je peux comprendre qu'il y ait une dimension symbolique. Je considère juste que les enjeux auxquels nous faisons face méritent plus que de la symbolique. Et je ne peux pas non plus ne pas y voir une forme d'opportunité politique s'agissant d'un volte-face sur ce sujet-là. Et donc, encore une fois, vous me parlez d'autres sujets avec des enjeux absolument majeurs. Sur la politique de défense, la réponse ne pourrait pas être on inscrit dans la Constitution que nous devons être souverains sur le plan militaire. Le sujet, c'est la loi de programmation militaire. Il faut que les moyens suivent et pas simplement les déclarations.
Mais pardon, la loi de programmation militaire, elle est votée. Elle vise à porter d'ici 2025 le budget de la défense à raison de 2% du PIB. Et je pense que, y compris des révisions supplémentaires pourront être faites à l'occasion de ce quinquennat et de cette mandature nouvelle. Je pense que jamais les moyens de la défense n'ont autant augmenté depuis ces dernières années. Et je crois que là-dessus, y compris tous les bancs de l'Assemblée nationale avaient suivi cette volonté en appuyant les projets du gouvernement. Et je pense que cette année, pour cette législature, ce sera la même dynamique qui sera enclenchée. Là-dessus, il faut être clair.
Je vous entends depuis tout à l'heure. J'ai l'impression vraiment que cette majorité sortante, et qu'Emmanuel Macron derrière, vous ne vous remettez jamais en cause. Vous ne vous remettez jamais en cause. Vous faites tout bien. Bah, écoutez, sur le droit à l'avortement, vous avez fait.
Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une occasion manquée. Je ne peux pas être.
On a une mandature qui commence. On a l'Assemblée nationale qui est dans l'état où elle est. Et parce que vous avez choisi d'enjamber les sujets de fond. Typiquement, sur cette question de l'avortement, à aucun moment ça n'a été inscrit ni dans votre projet aux élections présidentielles, ni dans votre projet aux élections législatives. Et pour cause, vous n'aviez rien inscrit du tout. Vous ne vouliez surtout pas qu'on aborde les sujets de fond. Et donc aujourd'hui, vous êtes surpris que vous vous retrouviez dans une situation de ne pas avoir cette majorité absolue. Et là, vous nous faites la même chose. Vous me dites à chaque fois, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, vous faites un coup politique, un coup médiatique avec cette proposition qui sort de nulle part au début d'une session parlementaire dans laquelle sont inscrits bien des sujets aussi extrêmement importants. Moi, j'aimerais qu'on débatte aussi du pouvoir d'achat, j'aimerais qu'on débatte aussi de la sécurité et pas simplement de ce satisfecit que la Macronie se livre en permanence à elle-même.
Alors, justement, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder tous les sujets que vous proposez, Othmane Nasrou, dans une assemblée sans majorité relative? Est-ce que c'est un mal pour un bien?
Moi, je pense effectivement que cette situation est meilleure que celle qui aurait consisté à donner une majorité absolue à Emmanuel Macron, dont il n'a pas fait grand-chose durant le premier quinquennat, puisque nous n'avons pas fait des réformes de structure dont le pays avait besoin. Et par ailleurs, si pour la première fois un président élu se retrouve sans majorité absolue, c'est parce que c'est l'échec d'une manière de gouverner aussi. Donc oui, moi j'ai combattu une manière de gouverner que je trouvais très verticale, qui refusait de se concerter, qui était émaillée de petites phrases inutilement blessantes, qui a ignoré les corps intermédiaires, qui a fait du Parlement une caisse d'enregistrement et qui a laissé les extrêmes progresser dans notre pays. Extrême droite puis extrême-gauche. Et donc, c'est l'échec d'une méthode, d'une manière de gouverner. Et donc, c'est bien qu'on ait une assemblée qui puisse délibérer davantage. Et je le vois, simplement, c'est pour cela que je regrette les opérations de communication. Si on veut vraiment que nos idées soient retenues, nous proposerons des textes, nous proposerons des amendements. Sur la précédente mandature, il y a à peine 1% des amendements des Républicains qui avaient été adoptés par la précédente majorité. Donc quand j'entends aujourd'hui que c'est nous qui bloquons, ça n'est pas vrai. Nous serons force de proposition, nous voterons tout ce qui va dans le bon sens et je crois que ça peut être salutaire pour le pays.
Donc une opposition constructive, comme on dit. Édouard Dorian-Sipel ?
Oui, je crois que nous avons une situation nouvelle, inédite, avec une majorité relative et qui oblige donc à construire des compromis,
qui
construire cette majorité.
C'est pas de gaieté de cœur, j'ai l'impression.
Bah, écoutez, on ne va pas non plus dire n'importe quoi. Quand on peut avoir une majorité absolue, c'est toujours plus confortable. Maintenant, ce n'est pas le choix des Français, dont acte. En même temps, nous sommes dans une responsabilité, puisque les Français aussi ont décidé de donner 245 députés à la majorité donc, du président de la République. À nous donc de faire ce travail, d'aller donc discuter. Je crois que c'est un message clair des Français. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Je crois que les Français veulent en effet que le Parlement dialogue. Ils veulent qu'il y ait une co-construction de la loi, qu'il y ait plus d'échanges. Eh bien, la Première ministre Elisabeth Borne a montré cette très grande disponibilité. Moi, je suis plutôt confiant. La question maintenant est de savoir si les autres groupes d'opposition sont dans la même disponibilité que nous. Pour nous, nous sommes disposés. Et puis, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a une réalité politique. Il faut avancer avec elle.
Othmane Nasrou, Édouard Dorian-Sipel dit les Français ont donné la majorité avec 245 députés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre?
Non, encore une fois, moi, les Français n'ont pas voté pour nous dire ce serait bien que vous discutiez entre vous. Les Français n'ont pas voulu donner une majorité pour la première fois à un président élu. Ça n'était jamais arrivé. Et là aussi, je n'entends aucune remise en cause. J'ai entendu la déclaration du président de la République
mercredi,
qui n'était pas d'une grande disponibilité, puisqu'il nous indique qu'il a été élu sur un projet clair. Je défie quiconque, n'importe quel électeur, on peut aller dans la rue tout de suite et demander à n'importe quel Français.
Vous m'avez renouvelé la légitimité. Vrai ou faux ?
La légitimité, il est élu, mais sur un projet clair, il a dit « j'ai été élu sur un projet clair ». Vous demandez à n'importe quel Français dans la rue, en sortant de ce studio, quel est le projet sur lequel a été élu le président de la République?
Personne n'en sait rien.
Et c'était fait à dessein.
Pas
et donc, quand on n'a pas une majorité d'idées, quand on n'a pas mis les propositions sur la table, et on l'a vu dans cette campagne législative totalement atone, on n'a pas de majorité dans les urnes.
Il a été élu par défaut, c'est ce que vous dites?
Je pense effectivement qu'il a été élu par élimination, et c'était voulu, dans cette stratégie de face-à-face avec les extrêmes, qu'il n'a cessé d'instrumentaliser, et qui lui est revenu en boomerang dans les élections législatives. C'est ça la réalité.
Par défaut ou par conviction, Édouard Dorian-Sipel?
Il y a toujours de tout. Moi, je ne suis pas dans la tête des Français. En tout cas, il y a un résultat politique.
Vous les observez?
Oui, mais en même temps, je ne prétends pas être dans la tête des Français. Ils sont assez grands pour s'exprimer. On lit tous les enquêtes aussi. Non, je crois qu'il y a une réalité politique. Un président qui a été réélu pour la première fois avec une majorité sortante, il a été mieux élu que la dernière fois. 28% au lieu de 24 avec 1,6 million de voix en plus. Voilà, mais il y a cette situation de pas de majorité absolue, une majorité relative. Et je crois que le message, c'est que nous voulons ce président de la République.
C'est vrai, c'est voilà, une petite majorité relative.
Aussi
et puis
que
c'est
cette
tout.
Majorité vous discute davantage, qu'elle discute davantage, qu'elle ne soit pas absolue, qu'elle soit relative, partagée. Eh bien, faisons-le. Tout est inédit dans la période. Ouais. Tout est inédit. Ce n'est pas la peine de rechercher des repères dans le passé. Rien ne peut aujourd'hui...
Mais si on n'en tire pas les enseignements, si vous n'en tirez pas les enseignements, le pays va dans le mur. Mais... Si vous continuez à considérer que c'est parce que vous n'avez pas été clair sur la ligne politique, que c'est l'échec du en même temps, à force de dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre, d'avoir M. Blanquer à l'Éducation nationale,
mais je vais vous dire
marqué à droite,
la...
ensuite M. Papendiaï, marqué à gauche, c'est-à-dire l'exact inverse.
Sur, ça, c'est...
sur tous
moi,
les sujets, vous avez
ça.
Brouillé
moi,
toutes les
du...
cartes.
Pour moi, c'est
et c'était voulu.
S'il y a un projet sur lequel le président a été élu, en tout cas qu'il a revendiqué comme ligne centrale fondamentale de son projet, c'est celui de l'autonomie stratégique, de la souveraineté de la France et de l'Europe.
Ça ne veut rien dire, c'est des beaux mots.
Je
mais
crois
là...
que ça ne veut pas dire, rien dire du tout. C'est un projet qui est à l'esprit gaullien et qui, me semble-t-il, permet de rassembler une large majorité.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un zigzag de la part du président de la République
et de continuel aujourd'hui.
Qui a brouillé toutes les pistes et qui fait qu'on ne savait même plus
je
pour quel
surtout
projet on vote.
Nous avons eu 5 ans historiques. On a eu, c'est vrai, les gilets jaunes pour commencer, une crise sociale tout à fait inédite et majeure. Nous avons eu dans la foulée une pandémie historique pour l'ensemble de la planète.
Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il n'y a pas de majorité absolue.
Et nous avons aujourd'hui la guerre en Europe par la Russie contre l'Ukraine. Donc pardon, si vous n'estimez pas que c'est une situation absolument hors norme, extraordinaire. Oui, le quinquennat a été bousculé. Donc, et malgré tout ça, le président de la République a été élu. Il n'a pas eu la majorité absolue. Mais tant acte. À nous maintenant, c'est ce qu'ont demandé les Français par leur vote. Ils ont
les Français vous ont sanctionné en ne donnant pas une majorité au président de la République. Soyons clairs.
Pardon de vous le dire, parce que moi je mesure bien la responsabilité qu'a celle de la majorité présidentielle. Et je crois que la Première ministre s'est bien exprimée en ce sens hier, soit encore à la télévision. La question c'est de savoir si vous aussi, l'opposition, vous serez à la hauteur de la situation, disponible pour travailler avec nous, de répondre aux exigences des Français ou faire de l'opposition bête et méchante comme on a tous été habitués à faire parce que face à une majorité absolue, il faut aussi, si je puis dire, une opposition absolue. Maintenant que nous aurons la disponibilité, la question est aussi dans votre camp. Et nous verrons, et les jugerons, et les Français jugeront.
Mais là, il n'y a pas d'opposition bête et méchante. On a une majorité qui est bête et méchante. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que pour négocier, pour discuter, encore faut-il qu'il y ait deux projets qui se confrontent. Notre projet, il est connu. Je vous pose une question. En politique migratoire, on veut mettre des quotas migratoires. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? On n'en sait rien. En matière de sécurité, les peines planchées, vous ne les avez jamais rétablies alors qu'on a une insécurité qui explose. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? On mettra tout ça sur la table. Pendant 5 ans, nous avons voté tout ce qui allait dans le bon sens. Mais en face, nous avons ce zigzag en permanence qui consiste à brouiller les lignes. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué de discuter avec des gens qui ont l'impression de détenir la vérité absolue, la vérité seule contre tous. Je l'ai dit, vous avez accepté 1% des amendements des Républicains durant la précédente mandature. Hein. Et même d'ailleurs sur cette question du droit à l'avortement dont on parlait, vous avez rejeté l'amendement qui était déposé à l'époque par la gauche. Donc, soyons sérieux.
On l'aura compris, ça.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui tendre la main, faire semblant de tendre la main, parce que vous êtes, vous, en échec, parce que vous n'avez pas voulu être dans la clarté, dans la ligne politique que vous proposiez aux Français. Et vous nous demandez, nous, d'être votre béquille électorale. Alors moi, je vais être très clair, nos responsabilités,
non,
on les prendra. Nos responsabilités, je vous réponds très clairement,
oui.
Nos responsabilités, on les prendra. Nous voterons tout ce qui va dans le sens de nos valeurs et de nos idées. C'est le mandat que nous ont donné nos électeurs pour les députés qui ont été élus. Mais nous ne cautionnerons pas vos erreurs et vos manquements. Nous avons aussi des divergences indépassables et nous resterons dans l'opposition.
Mais Édouard Dorian-Sipel, c'est intéressant ce que dit Othmane Asrou. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, nous allons collaborer, on va donner des propositions. Est-ce que vous, dans Ensemble, vous allez écouter la droite ? Est-ce que vous allez écouter la gauche ? Est-ce que vous allez écouter le RN ?
Oui, je crois qu'il y a cette disponibilité-là pour
attention,
travailler
en commun.
Attention,
on vous enregistre. 18h49, nous sommes le samedi 25 juin.
Oui, mais moi je parle en plus sous le contrôle de la Première ministre, enfin sous le contrôle, après avoir entendu ce qu'elle a pu dire, ce que le président de la République aussi a dit mercredi dernier, je crois que la disponibilité, elle est claire. Il est certain qu'on ne peut pas travailler sous ce quinquennat comme le précédent parce qu'objectivement, vous ne travaillez pas de la même manière avec une majorité absolue et avec une majorité relative. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Mmh. Il faut laisser maintenant le gouvernement et l'Assemblée nationale, en particulier le Parlement, avec le Sénat, travailler. Il faut laisser chacun avancer
ses propositions. Mais sur les questions que vous avez posées, des questions de fond,
on peut
démarrer.
Non, mais attendez, moi, d'abord, il faut laisser les députés discuter entre eux.
Mais
il faut laisser
un projet,
les projets de loi
arriver. Le président de la République a été élu sur un projet.
Moi, je parle
alors,
concret.
Qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité
Non, mais attendez, non, mais on poser des questions. Les textes vont arriver. Et les textes de votre groupe aussi vont arriver.
Les peines planchers pour la sécurité, oui
moi,
ou non ?
Moi, je n'ai pas de réponse maintenant à vous donner.
Et personne
moi, je
n'a
ne
de
suis
réponse,
pas favorable
hein,
à ces peines planchers. Moi, vous me demandez mon avis. Moi, je ne suis pas favorable. On ne les a pas faites parce qu'elles sont totalement inefficaces. Ça n'a aucune... Je veux dire, en plus, vous heurtez un principe fondamental du droit, qui est celui du cas par cas,
elles en vigueur,
de la particularité
hein.
de chaque
vigueur,
décision
hein.
de justice. Moi, je suis attaché à ce que chaque décision de justice soit unique et absolument particulière. C'est du cas par cas. C'est la grande invention du droit. Si on enlève ça... Vous voyez, on tue l'exécution
mais
même du droit. Qu'est-ce que ça veut dire juger d'une loi
que vous disiez
pour toutes bon,
voilà. Peine plancher, non.
De manière...
Mais voilà,
non,
voilà pourquoi...
Peine plancher,
non,
c'est sortir
voilà
de cette idée fondamentale du cas par cas.
Après, c'est Édouard Dorian-Sipel qui est territoire de progrès dans Renaissance, dans Ensemble. Donc,
oui, mais attendez,
Pierre,
moi, je retourne la question. Je pense qu'il ne faut pas avoir de fétichisme sur les propositions. Si votre préoccupation chez les LR, c'est d'améliorer la lutte contre l'insécurité. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se retrouver. Largement.
Et je suis désolé.
Et ça ne dépend pas des totems comme les peines planchers. Mais je pense que sur les moyens alloués au budget de la police nationale et des forces de sécurité intérieure, budget matériel et budget humain, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se retrouver. Là, il y a des trucs concrets. Il y a d'une part une proposition de loi qui a été annoncée par Aurore Berger sur la reconnaissance et dans la Constitution du droit à l'avortement.
Oui, ça, on a compris.
Donc, nous verrons ce que vous en pensez. C'est une question concrète pour vous déjà. Est-ce que tout votre groupe votera ou vous serez divisé ? Deuxième proposition, c'est le texte de loi qui viendra sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement viendra avec une proposition. J'espère qu'il pourra être nourri, enrichi des propositions de l'opposition. Mais là-dessus, on verra aussi si vous êtes pour le pouvoir d'achat des Français et si on peut se retrouver.
Sûr.
C'est du concret.
Votre conception de la politique, ce n'est pas pour ou contre le pouvoir d'achat, c'est comment on fait. Ouais. Et en l'occurrence, le président de la République
nos
a parlé...
Nos députés respectifs ont
discuté...
Attendez,
laissez-le terminer.
Vous avez parlé d'une coalition. Moi, je suis très heureux que vous veniez d'illustrer à l'instant, certains l'ont utilisé ce terme, et on nous a demandé pourquoi vous ne voulez pas saisir la main tendue, etc. Parce que nous avons des divergences indépassables. Vous ne voulez pas mettre en place les peines planchers.
Quelle est la divergence indépassable la plus forte?
Ah, mais il y en a des tas, je vous en donne quelques exemples. L'insécurité a explosé. Pendant 5 ans, le bilan de la sécurité de M. Macron, c'est une catastrophe. Les flux migratoires sont totalement hors contrôle. La dette a explosé. Il n'y a pas eu de réforme de l'État. Il n'y a pas de réforme territoriale. Il n'y a pas de maîtrise des déficits. Il n'y a pas de politique du pouvoir d'achat qui consiste à revaloriser le travail. Simplement une politique qui est faite de chèques et d'aides ponctuelles que nos enfants vont payer. Et à la veille de chaque élection, on verse 100 euros aux Français. Ce n'est pas ce qui est attendu. Nous avons des divergences philosophiques majeures, profondes. Voilà, c'est pour ça que nous restons dans l'opposition.
Donc, je ne sais pas qui vous dire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ce que disait Jean-Christophe Cambadélis, avant que vous rentriez tous les deux dans le studio, donc dissolution. Donc, on arrête.
Mais c'est ça.
Hein si, mais c'est marrant, et on en parlait encore avec les grandes voix
moi,
ce matin, avec Catherine
Ney,
avec Charles Villeneuve et Michel Cotard. Cette dissolution, finalement, elle va arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le croit.
Écoutez, moi je ne fais pas de politique fiction, et encore moins de métaphysique politique. Moi ce que je regarde, c'est une situation où il manque 45 députés, peut-être 35 à 7 heures à la majorité.
Vous faites encore des débauchages, on en cherche les uns et les autres,
ça.
Comme vous avez fait pendant 5 ans,
on
voit le résultat.
Je connais bien le travail parlementaire et vous sous-estimez, et vous faites peut-être semblant d'ignorer, qu'il y a énormément de textes qui sont sans doute invisibles pour les Français, mais qui les concernent directement et qui sont travaillés et votés aussi par l'opposition toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Pendant ce quinquennat,
il y a eu énormément de
choses où on a avancé ensemble. Pardon. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait ce cirque maintenant.
Vous voyez que l'opposition n'est pas bête. Mais
je ne fais pas de cirque, on discute.
Moi, je crois que, si vous voulez, il y a une situation, mais j'interprète les mots. Quand les gens ils disent, quand on entend le Rassemblement national ou même LR dire on ne veut pas de blocage. Bon, qu'est-ce qu'il y a sous ce terme de blocage? Ça veut dire que s'il bloque, à un moment donné, le gouvernement il est mis en minorité, effectivement, que le risque pour tout le monde, c'est la dissolution. Ça, c'est un risque. Et on peut mettre le président de la République devant le fait accompli. Mais je ne suis pas sûr qu'au sein de l'Assemblée nationale, y compris au sein de l'opposition, on veuille aller jusqu'à ce terme. Oui. Donc, il y a différentes façons pour chacun pour se déterminer dans le vote, pour permettre qu'il y ait des majorités qui se dégagent. L'abstention, par exemple, peut être l'un des moyens, aussi bien sur les bancs de la droite ou de la gauche, qui permettent d'avoir des majorités. Moi, ce que je peux vous dire, c'est un état d'esprit et une disponibilité politique. Celle d'aller chercher le compromis sur les textes. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut chercher des majorités à chaque texte. Donc, nous verrons.
Édouard Dorian-Sipel, question. Parce que là, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Est-ce que ça veut dire que, et je parle sous le contrôle d'Otman Nasrou des LR, est-ce que ça veut dire que si sur un texte, vous avez l'opposition, quelle qu'elle soit,
qu'il y a une majorité et vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une dissolution? Est-ce qu'au premier texte sur lequel Ensemble n'est pas d'accord avec le reste de l'Assemblée nationale, bam, dissolution, merci, au revoir,
non, on
recommence tout.
Je ne crois pas que ce soit comme ça. Je pense que ça se présente techniquement dans les cas où le gouvernement joue sa responsabilité et engage sa responsabilité devant, devant l'Assemblée. Ça, c'est un cas de figure, effectivement, où s'il y a échec du gouvernement devant l'Assemblée, il y a démission du gouvernement. Et à ce moment-là, le président de la République peut aussi décider, dans ce cas-là, d'une dissolution. Et il y a un autre cas aussi, peut-être, qui est, je pense par exemple au vote du budget. Je ne pense pas que c'est sur tous les votes. Moi, encore une fois, moi, je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne fais pas de préjugés.
On ne fait pas de fiction, mais on envisage les hypothèses.
Mais je pense que c'est l'opposition elle-même qui parle de dissolution, en tout cas de manière couverte, lorsqu'elle parle de ne pas vouloir de blocage. Parce qu'ils savent très bien que c'est un moment où ils bloquent. Le président de la République n'aura pas d'autre choix que de renouveler les élections.
Pour les Républicains.
C'est le président de la République qui décide de dissoudre ou pas. Il le fera quand il le voudra. Ouais. Ce n'est pas mon sujet.
Ce n'est pas une obligation.
Mais quand on ne nous demande pas, nous, de voter des choses dont on pense qu'elles sont mauvaises pour le pays, pour ne pas bloquer, ça me paraît surréaliste. La question, c'est est-ce que vous reprenez nos idées. Ce qui va dans notre sens, nous le voterons. Nous sommes cohérents, nous défendons les mêmes idées.
Écoutez,
depuis
nous jugerons
des années.
Partage,
je ne vais pas
bien.
Demain soutenir l'inverse de ce que j'ai
je ne préjuge pas de votre
sur le mandat précédent.
De vos votes et de votre
cas
attitude.
De nos députés.
Moi, je vous parle d'une les choses vont commencer maintenant.
Oui, mais quand le président de la République arrive et dit « Vous avez 48 heures maintenant pour faire des propositions. Moi, mon projet, il était clair. » Je pense qu'il ou il fait semblant ou il n'a rien compris à ce qui est en train de se passer dans le pays, y compris à la colère qui gronde. Quand on arrive à faire rentrer 90 députés RN sans proportionnel, on devrait quand même se poser des questions sur la manière dont le pays est gouverné.
Je pense que c'est surtout vous à droite qui devrez vous poser des questions.
Bon, et ben voilà, ça nous donne quand même une ambiance à l'aube de cette nouvelle Assemblée nationale. Merci beaucoup Othmane Nasrou, merci à vous Eduardo. Priencipel, dans un instant le journal de 19h, juste après un piano id, c'est son dernier album. Édouard Ferlet est un jazzman français et vous allez voir, il transforme non seulement la musique mais également son instrument. Et puis à 19h30, un peu dans la continuité des débats qu'on vient d'avoir dans Panorama, avec Henri Guénaud, avec Anne Miller et avec l'historien Fabrice Dalméda, on se posera cette question, est-ce que la France fait encore rêver? A tout de suite sur Europe 1.